7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins.
J'ai 3 cartes.
Et moi, je peux rejouer?
Ah, à moi?
À toi, Emma?
Et non, non, non. Tu ne me prends pas, tu ne me touches pas.
Nous parlons des frères et sœurs aujourd'hui. Aînés, cadets ou Benjamin, que détermine notre place dans la fratrie? En quoi cette place peut influencer notre personnalité? Et comment échapper à des caractères qui seraient déterminés à l'avance? Dans de nombreux pays, l'aîné garde un rôle très important, presque celui de chef de famille, avec une responsabilité morale, parfois financière, à l'égard du reste de sa fratrie. Avec nous, pour en parler et pour répondre à vos interrogations sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Maiglet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste spécialisée dans les troubles de l'enfance et de l'adolescence. Vous avez publié le livre « Quand l'enfant nous éclaire et nous dérange à l'écoute de l'enfance en souffrance » et vous vous intéressez bien sûr aux relations au sein de la famille. Nous joindrons également Sérigné Morbaille, psychologue clinicien et directeur du CEGID, le centre de guidance infantile de Dakar. Un peu plus tard dans l'émission, nous serons en ligne avec l'historien Fabrice Boudjahaba, spécialiste de l'histoire de la famille. Et la parole est à vous les voisins et les voisines, encore plus que d'habitude si c'est possible. Êtes-vous l'aîné, le deuxième, le troisième, le petit dernier ou la petite dernière? Quelles ont été vos responsabilités dans la fratrie? Comment avez-vous vécu cette place dans la famille et quelles relations entretenez-vous aujourd'hui avec vos frères et sœurs? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et comme toujours, nous serons ravis de vous lire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Et vous nous écrivez les voisins déjà sur Facebook. Diderot nous écrit depuis Yaoundé au Cameroun. Je suis le sapeur-pompier de ma famille. Je suis l'homme à tout faire. Mon père a 2 femmes et 17 enfants. Je suis le 4e enfant et le 1er garçon. Et je suis le seul qui a un travail décent. Je suis fonctionnaire. Alors la majorité des responsabilités me reviennent. Depuis que je travaille, je dois parfois aider mes parents financièrement. Et aussi ma petite sœur qui vient d'avoir son bac. C'est moi qui prends en charge ses frais de scolarité. Je vous lis aussi le message d'Osana, qui est à Béboto, au Tchad. En tant qu'aîné de la famille, aîné de 7 enfants, tous les regards de mes petits frères et de mes petites sœurs sont tournés vers moi. À chaque fois qu'on se voit, ils me disent « Osana, efforce-toi de réussir, ouvre-nous la porte, tu es notre espoir ». Et ces paroles me motivent, me poussent à surmonter les obstacles, car je pense que si je réussis, eux aussi vont réussir. Et on vous attend aussi les voisins sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Et d'ailleurs Mohamed à Conakry nous a déjà laissé un message.
Bonjour 7 milliards de voisins. Moi je suis le Benjamin de la famille. Depuis ma naissance et jusqu'à présent, la disparition de mes deux parents, je continue toujours d'être dorloti, d'être caressé parce que je suis le Benjamin de la famille. Et quand je veux quelque chose, je demande mes frères et sœurs. Ça veut dire que je suis toujours gâté.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
Alors Virginie Maiglet, certains rôles sont traditionnellement assignés aux enfants selon leur place dans la fratrie. Quels sont ces rôles?
Alors d'abord, ce sont des grandes tendances qui permettent de dégager des pistes, mais ce ne sont pas des généralités absolues, parce que parfois elles se transforment en leur contraire. Hein. Mais c'est vrai que l'aîné, c'est le premier enfant, c'est celui qui fait son père et sa mère. Donc effectivement, il a un rôle important dans le sens où aussi on l'investit effectivement d'une réussite en tant que parent, et en même temps c'est lui qui essaie aussi qui doit supporter toutes les hésitations des parents.
C'est sa naissance qui crée la famille.
C'est la naissance qui crée la famille, mais en même temps donc on est très exigeant avec lui, et aussi il y a quelque chose qui le détermine, c'est qu'on le force à être grand très tôt. Parce que l'aîné, qui est un petit frère de 2 ans, on nous dit qu'il est grand à 2 ans. Mmh. Ok. À l'opposé, il y a le petit dernier, le petit frère, la petite dernière, le Benjamin, la Benjamine, mais comme on le dit, effectivement, ils resteront petits tout le temps. Hein, on dit petit dernier, même à 45 ans, je suis la petite dernière.
Enfin, c'est pas, je parle comme pas Mohamed, de moi-même, qui nous dit voilà, qu'il comme est dans
voilà, il est dans l'autre. Et donc là, effectivement, ça caractérise quelque chose, cette obligation d'être grand et cette nécessité de rester petit. Alors, et entre les deux, il y a celui qui est ni grand ni petit. Alors parfois, c'est très lourd d'être grand, parfois c'est pesant d'être petit, mais en même temps, ça définit l'identité. Tandis que celui qui est au milieu, il n'a jamais été l'aîné, jamais été le premier, il a pensé peut-être être le dernier, et quelqu'un vient lui prendre sa place. Donc finalement, il se sent comme ni. Hein.
Alors, nous avons beaucoup d'aînés parmi nos voisins. Nous sommes en ligne avec Césaire à Béché, au Tchad. Bonjour Césaire.
Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, vous avez donc 23 ans et vous êtes l'aîné de votre famille. On vous écoute, Césaire.
Oui, je suis aîné de ma maison. Une famille de 8 enfants et actuellement, je suis en études à Béché, très loin de mes parents. Mais ce qui est de la question, comme j'avais un peu commenté dans la page Facebook, c'est dit, ma question se pose sur ce point. Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour impacter positivement la famille? Parce que vu ce qui est de mes petits frères, tout ce dont je fais est imité directement.
Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, vous qui êtes un petit peu le modèle aussi de vos frères et sœurs? C'est ça la question que vous aimeriez poser.
Voilà.
Virginie Méglé.
C'est vrai qu'être le modèle pour ses frères et sœurs, c'est à la fois effectivement rassurant parce qu'on se sent important et en même temps c'est très lourd aussi parce que effectivement ça crée une responsabilité et ça empêche peut-être parfois la spontanéité. Donc en fait, comment vous vivez-vous le fait d'être le modèle? Souvent, le fait d'être le modèle empêche de vivre sa propre enfance. On agit qu'en fonction des autres. Donc j'aurais envie de vous inviter et vous demander. Qu'est-ce que vous ressentez en étant le modèle? Est-ce que ça vous fait, d'une part, ça vous fait certainement plaisir parce que les regards sont portés sur vous, mais si vous pensez que c'est un peu lourd à porter, peut-être faut aussi oser des fois ne pas être le modèle. Se dire à un moment donné, ben tant pis si ce que je fais ne plaît pas, je suis quand même un enfant. Bien sûr, effectivement, à 20 ans, à 23 ans, on n'est plus un enfant en apparence, mais sans doute vous avez été obligé d'être grand très tôt. Donc quand vous étiez enfant, vous aviez déjà cette nécessité de vous sentir comme le modèle, mais qui vous a peut-être empêché d'être aussi être bien pour vous-même. Donc ça peut être, je dirais, c'est si vous êtes bien, pourquoi pas rester le modèle? Si c'est lourd, pourquoi pas d'abord chercher à faire ou à être selon ce que vous aimez, selon ce qui vous fait du bien.
Césaire, vous vivez une certaine pression du fait de votre position dans la fratrie?
Bon, non, c'est pas une pression, mais je trouve une pression en moi parce que chaque jour que je vis une façon dont je dois faire de sorte que cela ne puisse pas impacter négativement sur mon petit frère parce que si je suis mal positionné ou bien je fais quelque chose de mal, directement je suis en train de conduire également, mais c'est ce qui vient après moi dans le même trou que je suis.
Et vous aimeriez que vos frères et sœurs fassent des études aussi plus longues que vous. Merci beaucoup Césaire pour ce témoignage. Alors Virginie Méglé, un certain nombre d'études ont été réalisées sur le sujet. Celle par exemple de chercheurs de l'université de Leipzig, selon laquelle le QI de l'aîné serait plus élevé que celui de ses frères et sœurs. Ça va faire plaisir aux voisins ou aux voisines qui sont les aînés de leur fratrie. Une autre étude, c'est celle de l'économiste François-Charles Wolff qui est datée déjà de 2013. Selon cette étude, l'aîné réussit mieux à l'école que les autres. Il redouble moins que ses frères et sœurs, obtient plus souvent le bac et fait de plus longues études. Si on en croit cette étude, c'est aussi une chance d'être aîné.
Oui, mais moi en tout cas dans la pratique, je peux pas le. Bon, si c'est une étude, on peut pas ne pas la croire, mais dans quel contexte a-t-elle été faite? Ce qu'on voit aussi, c'est des seconds réussir très bien. Parce que justement, autant l'aîné a une place où il est assuré d'être aimé, tandis que le second, ou la seconde, va effectivement être en rivalité avec son aîné pour le dépasser. Donc effectivement, je suis surprise par rapport au résultat de cette étude. Parce que peut-être c'est vrai qu'il y a une espèce comme une obligation, une injonction de réussite qui peut être réelle. Et vraiment, je le constate, cette espèce d'assurance. Mais aussi dans la pratique, je vois aussi qu'il y a tellement d'aînés qui... Bon, qui, même aussi intelligents soient-ils, c'est pas pour autant qu'effectivement ils vont après vraiment réussir mieux leurs études que leurs petits frères ou petites sœurs. Hein.
Alors nous sommes en ligne avec un autre voisin, Bankole, à Lomé, au Togo. Bonjour Bankole.
Bonjour, bonjour.
Nous sommes ravis de vous avoir dans l'émission. Alors vous, Bankole, vous avez 46 ans et vous êtes le 29e enfant de votre famille, c'est ça ? On vous écoute.
Oui. Et 29e pour l'ensemble et puis 3e du côté maman. Et je vous assure que ça n'a pas été toujours facile parce que nous avons tous grandi pratiquement. Et nous avons eu la chance que papa soit bien occupé de nous. Nous avons tous été à l'école et aujourd'hui chacun a pris son chemin. Mais je vous assure que jouer le rôle intermédiaire n'est pas chose aisée. Il faut toujours subir les dictats des aînés. Et lorsque vous essayez de vous opposer, parfois c'est la bagarre, la dispute, les insultes.
Par exemple, sur quel sujet est-ce que ça peut être la bagarre avec vos aînés ?
Ils vous imposent des choses à faire, les corvées par exemple. Vous revenez de l'école, on vous dit c'est vous qui devez faire ceci, c'est vous qui devez faire ça, et puis... Et si vous n'êtes pas d'accord, un coup de poing sur la tête, vous comprenez ?
Ah oui, et la violence.
Et nous avons aujourd'hui gardé l'éducation que surtout papa nous a donnée, parce qu'il ne cesse de nous répéter tout le temps que nous sommes frères et sœurs d'une même mère et que nous devons nous aimer. Nous sommes condamnés à rester ensemble. Et cela nous a marqué. Cela nous a marqué. Et moi, je dois avouer que lorsque nous avons grandi,
Alors, la ligne se détériore un peu, Bankole, je suis désolée. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Virginie Meiglet, comment vous réagissez à l'écoute de Bankole, qui a donc grandi dans une famille polygame de 32 enfants, 29e enfant, qui a dû aussi subir le diktat, il le dit lui-même, des aînés.
Ben oui, parce que là, ce qu'on peut appeler le diktat des aînés, c'est le fait qu'ils ont été effectivement les premiers. Tout enfant s'imagine à un moment donné être le seul, le premier, comme il était le seul, le premier, ou à peu près tous, dans le ventre de sa mère. Et donc les aînés, souvent, ont cette place particulière, mais ils sont aussi mis dans l'insécurité parce que chaque fois, il y a un enfant, puis un enfant, puis, donc le 29e enfant qui va prendre la place de l'aîné. Donc ils se sentent menacés. Leur façon de garder leur première place, c'est de prendre une autorité un peu abusive, comme dit Bankole. Et lui, ce qui est vraiment difficile, c'est le mot qu'il a dit, c'est intermédiaire. Il est pris entre tous. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que quand il parle de son papa, qui effectivement, même s'il a eu autant d'enfants, parce que c'est quand même beaucoup, reste là vraiment en tant que père pour essayer de faire la loi sans laisser simplement l'aîné reprendre sa place sur les plus jeunes. Mais ça dit bien cette difficulté de l'intermédiaire qui n'a pas vraiment de place.
Et alors, de son côté, l'aîné, lui, s'efforce aussi de conserver sa place à la naissance de ses autres frères et sœurs. Il lutte pour rester aussi le favori dans la famille. Et on imagine que ça a des conséquences aussi plus tard sur sa personnalité.
Vous savez, la place qu'on a dans la fratrie, ou la place qu'on a dans sa famille, est très fondatrice des relations qu'on entretient ultérieurement en société. Donc là, comme je voulais souligner tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est un peu le nom de l'émission là, le milliard de voisins, c'est effectivement ça va déterminer les rôles de voisinage et les rôles sociaux. Donc c'est vrai que l'aîné va souvent vouloir remplir un rôle de chef. Et je dis bien vouloir parce que souvent il le remplit, mais pas forcément, mais souvent il aura tellement été imbu de sonorité trop tôt, ça aurait été au sacrifice de sa fragilité.
Est-ce que ce rôle aussi change selon qu'on soit une fille ou un garçon ?
Bien, dans le meilleur des cas, si vous voulez, quand l'enfant est né en tant que fille, on est symboliquement, oui, le garçon de la famille. C'est symboliquement, c'est pas la réalité, mais c'est donc on va vouloir remplir tout le rôle qu'aurait eu un garçon.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71 pour vos témoignages en tant qu'aîné, cadet, Benjamin et j'en passe, on a envie de vous entendre aujourd'hui.
7 milliards de voisins
qui refont le monde avec 7 milliards de voisins.
On en a encore peu parlé, il est parfois difficile d'être dans la position du milieu. Mélanie, la trentaine, vit à Paris entre deux sœurs, puisque c'est la cadette de sa fratrie. Notre reporter Alice Milo l'a rencontrée.
Donc là, c'est une photo de mes sœurs et moi qui a probablement été prise quand moi je devais avoir, donc dans les années 90, quand moi je devais avoir 8 ans, ma grande sœur devait avoir 10 ans et du coup ma petite sœur 6 ans. On a des franges, toutes les trois, on a la même coupe et on est plutôt heureuses et voilà, contentes d'être ensemble. Mes parents se sont séparés quand on était jeunes et on a été principalement élevés par ma mère.
Et alors, deux sœurs?
Deux sœurs, oui, donc une grande sœur et une petite sœur. Donc moi, je suis celle du milieu. Ma grande sœur était assez caractérielle et donc j'ai des souvenirs assez forts, pour le coup, de conflits avec elle, de ses coups d'éclat. Et donc ça, j'ai ces souvenirs-là quand elle était en prépa. Du coup, elle avait énormément de travail puisque c'était des études exigeantes.
En classe préparatoire pour les grandes écoles.
En classe préparatoire, voilà, tout à fait. Et à partir de 20h, en fait, plus personne ne devait faire de bruit dans la maison pour qu'elle puisse réviser ses cours. Donc, on était tous cloîtrés dans nos chambres respectives. Et si on faisait un peu trop de bruit, alors là, elle sortait et elle se mettait à nous hurler dessus. Elle est assez tyrannique. Et,
en tout cas, c'était difficile d'exister à côté d'elle.
Voilà, ouais, bah ça, c'est sûr, parce qu'elle voulait prendre toute la place. Je pense qu'elle ne s'est jamais remise de ma naissance. Je pense, c'est vrai. Non, oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'une blessure qu'elle a gardée, mais qui est vraiment une blessure primaire, en fait.
Animale,
voilà, d'avoir été seule pendant 2 ans et demi et d'un coup, elle n'était plus seule, en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui est complètement irrationnel parce que je pense que par ailleurs, elle nous aime beaucoup et elle aime sa famille. Enfin, dans mon enfance, en fait, je pense que j'ai agi en réaction au comportement de chacune de mes sœurs, en fait. Moi, j'allais beaucoup tempérer ça, ne surtout pas faire d'éclat pour ne pas rajouter une charge émotionnelle à ma mère qui en avait déjà suffisamment avec du fait de ma sœur. En tout cas, c'est vrai que j'ai endossé une responsabilité un peu de médiateur dans la famille, et c'est souvent pour en avoir discuté avec plusieurs personnes qui étaient dans la position du milieu, c'est souvent les enfants du milieu qui endosse ce rôle dans les familles, mais en effet, ouais, de médiateur. J'aurais aimé à certains moments pouvoir moi aussi exister, moi aussi pouvoir exprimer de la colère, de la tristesse, de la faiblesse, ou autrement qu'en réaction aux autres, en fait, juste avoir une existence propre. Et ça s'est manifesté pour moi plus tard, vers mes 28 ans, où là, j'ai fait ma crise d'adolescence.
Et alors, à 28 ans, comment elle s'exprimait, cette crise d'adolescence tardive?
De manière un peu ridicule, puisque je suis tombée dans l'anorexie à 28 ans. J'ai perdu 10 kilos sur 1m55, donc bon, classique. J'ai arrêté de manger et j'ai voulu... Et mon mal-être s'est manifesté physiquement un peu pour qu'on me regarde, quoi. Pour dire un peu à ma famille, moi aussi j'existe. Enfin, j'essaye de m'extraire de ce schéma-là, parce que du coup, voilà, moi dans ma famille, je me suis construite un peu surtout ne pas faire de bruit, ne pas me manifester, tout ça. Et c'est quelque chose, du coup, que j'ai tendance à reproduire dans mes relations amicales et professionnelles. Ça, c'est...
Vous êtes la fille qui fait pas de vagues.
Voilà. Et en fait, c'est chiant. Non. En fait, à l'intérieur, je fais des vagues.
Ça bouillonne
à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est pas sain. Du coup, je trouve que ça m'handicape dans le sens où, comme je veux surtout pas faire de vagues, je garde beaucoup de choses à l'intérieur. Et quand ça sort de manière complètement disproportionnée et de manière non constructive. Encore aujourd'hui, je réagis comme la sœur de mes sœurs et la fille de ma mère du fait de la manière dont ma personnalité s'est construite dans mon enfance.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Virginie Méglet, que vous inspire le témoignage de Mélanie?
Je trouve qu'il est vraiment d'une grande richesse, extrêmement touchant. Bon, ce qui me frappe aussi, c'est quand elle a dit « j'ai réagi de façon ridicule par l'anorexie », je trouve ça pas ridicule, c'est-à-dire à quel point ça peut être très difficile d'être coincé entre deux.
Enfin, une vraie souffrance.
Milieu intermédiaire, de vraie souffrance. La souffrance de l'aîné est réelle, parce que comme Mélanie dit, ben oui, j'ai l'impression que ma soeur ne s'est jamais remis de ma naissance, mais c'est quelque chose de vrai. C'est vraiment que, donc c'est pour ça que considérer le traumatisme que représente la naissance d'un frère ou d'une soeur, c'est ce qui peut apaiser et permettra aussi à un aîné de mieux accepter ensuite sa sœur. Et pour l'enfant du milieu, effectivement, qui n'a pas sa place, ben c'est sûr qu'il subit, entre guillemets, la dictature de l'aîné. Tant qu'il est le dernier, ça peut aller, mais si en plus quelqu'un vient prendre sa place derrière, il se sent vraiment en grande fragilité. Donc je trouve que son témoignage est extrêmement touchant, parce que dans tout ce qu'elle dit, elle dit bien la difficulté de cette place qui n'en est pas une et qui fait qu'on finit par s'effacer au profit de tantôt être intermédiaire, c'est tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre et jamais soi-même.
Les voisins, les voisines, si vous voulez réagir, nous raconter votre histoire familiale, votre rôle au sein de la fratrie, on attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, mais d'abord un peu de vivre ensemble et ça s'applique dans la fratrie. We all must live together. C'est signé Roseau et Allo Black et c'est sur RFI.
Our families are no longer together. We have no loyalty between men and women. One man killed his brother. And love's an idea we have yet to discover. Fathers, fathers, save your children for us. Mothers, keep them safe and warm. Brothers, brothers, grow up and become a man. Sisters, spread the love across the land. 'Cause we all must live, we must live together. You should know that we all must love each other. Come on, children, help me. Sometimes the world seems so cold, watching the elderly as they grow. With our respect for the family, because without them we could never be.
Fathers,
fathers, save your children for us.
Mothers,
mothers, keep them safe and warm.
Brothers,
brothers, grow up and become a man.
Sisters,
spread the love across.
Vous êtes l'aîné, vous avez sûrement entendu que vous étiez le plus sérieux, le plus responsable de la famille. Si vous êtes le dernier, on a pu vous reprocher de vous laisser porter, d'être le Tanguy de la famille, celui qui a du mal à gagner son autonomie. En quoi notre place dans la fratrie peut forger notre personnalité? On parle de tout ça dans 7 milliards de voisins avec notre invitée Virginie Méglet, psychanalyste spécialisée dans les troubles de l'enfance et de l'adolescence. Et nous sommes en ligne avec Sérinée Morbaille. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien et directeur du Cégide, le centre de guidance infantile de Dakar. Merci d'être en ligne avec nous. Alors, quel rôle joue la place dans la fratrie, selon vous, au Sénégal? Est-ce qu'on a aussi un rôle prédéfini selon sa place en général?
Mais tout à fait, nous sommes des sociétés fortement hiérarchisées, et naturellement, et chacun a sa place, c'est bien défini. Il doit jouer un rôle tout à fait prédéfini. Et c'est là où on est inséré dans un tissu de relations, de tissu de projets. On est porteur d'un fardeau extraordinaire, le passé, le présent et l'avenir, vos ancêtres. Et lorsqu'on est aîné, c'est une place, de, je dirais, non enviable, parce que on est comme une continuité du parent, et on est un modèle, et on ne peut pas sortir facilement de ce modèle. Et comme je dis, nous sommes déchargés, nous les aînés, nous sommes déchargés de missions.
Et alors justement, quelles sont les missions de l'aîné, les missions traditionnelles?
Les missions de l'aîné, c'est d'abord de devoir porter le modèle parental, les valeurs, et de devoir les porter quotidiennement, et de les distiller dans des attitudes, des comportements, et par rapport à la fratrie qui suit, et de trouver les moyens de réparation de toutes les frustrations familiales. Je dirais, on est en face d'une obésité de la demande qui fonde que les échecs ne sont pas permis. Et c'est là où il y a énormément de fragilité lorsque survient l'échec dans la trajectoire de vie.
Et qu'en est-il dans une famille polygame avec de nombreux frères et sœurs?
Mais c'est encore très, 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 très complexe, parce que, en fait, chaque foyer de femme a son aîné. Donc, ici, il y a une compétition quelque peu sournoise, parfois très, 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 très difficile, entre les aînés. Vous êtes une famille de trois femmes mariées, avec un père qui est comme une projection orthogonale de Dieu sur terre, qui cherche à être équidistant entre les foyers et entre les aînés. Il y a une compétition sourde. Vous devez à la fois être l'aîné de votre mère, mais vous pouvez aussi être l'aîné de cette fratrie multiple. Et là aussi, ça devient complexe. Vous êtes doublement aîné. Vous êtes aîné de votre mère, vous pouvez être aîné de votre père. Mmh. Et naturellement, c'est difficilement assumable, parce que il y a cette compétition, on vous revendique votre statut, et vous pouvez le perdre, ce statut-là, dès l'instant que vous ne pouvez pas assumer, en fait, vos rôles.
Et il y a aussi une question financière, hein. L'aîné qui réussit, qui fait des études, se doit aussi souvent de prendre en charge financièrement les études de ses frères et sœurs.
Évidemment, ça met les gens dans des situations extraordinaires, parce que lorsque économiquement, dans le contexte traditionnel, vous étiez dans un contexte de production agricole, l'essentiel de l'économie était agricole. Dans le monde salarial, imaginez-vous que votre patron ne calcule pas votre salaire selon votre posture d'aîné. Et là, on voit des aînés qui sont complètement dépouillés au profit de leur famille, de la famille qu'ils ont bâtie. Donc c'est très, 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 très complexe dans l'Afrique d'aujourd'hui, et surtout l'Afrique urbaine, et où les solidarités sont devenues changeantes aussi. Parce que vous pouvez être porteur de ce statut-là sans pour autant être accompagné, être soutenu. Donc, il y a problème.
Alors, je vais maintenant m'adresser au voisin qui est en vous, Sérigny Morbay, et non plus au psychologue. J'ai cru comprendre que vous étiez aîné et que vous en aviez souffert et que vous avez même démissionné de ce rôle-là.
Non, c'est une façon de dire. J'ai dit, mais j'étais 40 ans, 51 ans. Une fois, je leur ai dit, mais attendez, mais écoutez, vous ne pensez pas que je puisse passer la main à quelqu'un d'autre et que je puisse démissionner? Parce que la charge est lourde.
C'est un vrai travail.
Un vrai travail, et en fait, ils ne m'ont pas entendu. Ils ont rigolé en disant, ben tiens, c'est ainsi que c'est fait, c'est toi qui vas l'assumer jusqu'à la fin de ta vie. Et il a fallu que je renégocie en fait le statut. Parce que ça pas, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Hein. C'est peut-être dans l'estime de soi, pour le narcissisme, ça fait du bien. Hein. Mais par rapport à la charge économique que cela représente, à la charge affective que cela représente, je pense que c'est quelque peu lourd dans un contexte où en fait la vie est un peu plus difficile.
Et est-ce que vous avez un conseil à donner aux voisins qui seraient aînés et qui nous écoutent?
Mais aux voisins qui nous écoutent, je dirais, ben, écoute, il faut assumer ce qu'on peut. Ce qu'on peut, il faut pouvoir à la fois peut-être porter cela, parce qu'on n'y peut rien, c'est tout à fait biologique que d'être aîné, mais je pense qu'il ne faut pas être enserré complètement dans la demande, la forte demande, et parce que ça peut vous amener énormément de problèmes. Par ailleurs aussi, je dis, les parents aussi doivent sortir un peu de ce modèle, parce que c'est un modèle qui peut devenir quelque peu tyrannique par rapport au cadet, au dernier-né, parce que les enfants aussi peuvent être tout à fait tyranniques. Comment gérer tout cela en étant, en comptant sur la créativité et l'identité de chacun, la différence de chacun, parce qu'on veut que tout le monde soit modélisé en fonction de cet aîné-là qui a réussi, qui est un modèle. Et on a fini par étouffer la créativité et l'identité des suivants.
Merci beaucoup Sérigny Morbay. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien et directeur du CEGID, Centre de Guidance Infantile de Dakar.
7 milliards de voisins
et la planète sépare.
Allez, on va donner la parole à des voisins tout de suite. Nous sommes en ligne avec Youssouf à Paris. Bonjour Youssouf.
Oui, bonjour.
Vous avez grandi dans une grande famille, je crois, Youssouf.
Ah oui, c'est une grande famille. Je dois préciser que chez nous, l'aîné occupe une place particulière.
Mm-hmm.
Allô ?
Oui, oui, voilà, on vous écoute.
Je suis issu d'une ethnie, par exemple, chez le Sonique, qui dit souvent que Didror et Nefabia, qui signifie que l'aîné est un second père, en fait. Voilà, et moi, dans ma famille, on a aussi développé très tôt de très bonnes relations fraternelles, empreintes de cordialité, d'amour et de respect. Alors,
Et vous n'êtes pas l'aîné, vous êtes le quatrième, c'est ça, de la famille ?
Tout à fait. Alors, et c'est vrai que nous avons eu, les deux plus grands sont décédés très tôt. Le plus grand, on ne l'a pas beaucoup connu, mais... parce qu'il voyageait beaucoup, parce qu'on est issu d'une ethnie qui voyage beaucoup. Mais quand on l'a connu plus tard, alors il nous a bien couvé et il nous a donné des conseils, parce qu'il avait beaucoup voyagé, il nous donnait des conseils et tout. Et son décès a coïncidé avec celui de mon père. Mmh. Alors, à partir de là, nous avons eu le troisième qui vivait à l'époque en France et à qui je rends honneur ce soir, et qui s'appelle Sylvie. Et très tôt a pris ses responsabilités et a pris en charge cette famille, alors que beaucoup d'entre nous étaient à l'époque élèves et étudiants.
C'est-à-dire qu'il vous a pris en charge financièrement ?
Voilà, il nous a pris financièrement en charge. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ma famille, on est dans l'option d'une organisation sociale où les dépenses, où on cotise tous les mois pour prendre en charge la famille.
Ah, c'est organisé. Par mois.
Voilà, et 26 ans après, alors figurez-vous que lui qui est devenu attaché aujourd'hui, et aujourd'hui nous sommes tous indépendants financièrement, parce que dans la famille, j'ai aujourd'hui un docteur en pharmacie, un cadre dans une cimenterie à Dakar, j'ai un qui est dans l'événementiel, moi qui vous parle, je suis fonctionnaire, j'ai deux autres qui sont dans le privé. Alors, mais ce qui est extraordinaire, c'est que 26 ans après, c'est lui qui a action, les dépenses tous les mois, et à charge en nous de lui faire des virements à la fin du mois. Et il n'attend même pas les virements. À la fin du mois, il donne l'argent qu'il faut. Et après, derrière nous, on le rembourse.
Ah, vous le remboursez quand vous pouvez le rembourser.
Voilà.
Donc c'est une vraie organisation. Merci.
C'est une vraie organisation. Et là, c'est le moment. Alors, pour terminer, je rendrai aussi hommage à mes grandes sœurs aussi, qui vivaient à l'époque aussi en France, à Nairobi. Et les autres qui avaient tous participé à une prise en charge. Mais surtout, en guise de conclusion, je dirais, j'emprunterai les termes de mon frère et ami Docteur Sherna Mohamed Wagé, qui terminait sa thèse de doctorat à Sorbonne en disant: je rends hommage à l'amitié quand elle est sincère et à la fratrie quand elle est bien entretenue. Et je peux dire que j'ai vécu dans une famille où la fratrie a été bien entretenue.
Et en effet, avec de vraies réussites professionnelles. Merci beaucoup Youssouf pour ce témoignage et pour cet hommage que vous rendez donc à votre grand frère en particulier. Virginie Maiglé, on comprend aussi, après la mort d'un parent, l'aîné peut aussi vraiment endosser ce rôle-là.
Oui, il le fait, c'est un mouvement naturel. Hein. C'est parce qu'on a besoin que sa mère aille bien aussi. Hein. Il y a le fait de ça. Donc, il y a la perte du père. Donc, on va remplacer le père. Mais en même temps, c'est malgré tout c'est un peu le sacrifice de l'enfance. Hein. À la fois, on ne peut pas ne pas faire autrement. Je ne vais pas dire que c'est mal, hein, c'est pas ça. Mais c'est souvent le sacrifice de l'enfance. Et là, je trouve que le témoignage est vraiment extrêmement touchant. Parce qu'à la fois, il y a la perte du père. Si j'ai bien compris, il y a aussi la perte de l'aîné. Et finalement, ils sont tous devenus de vrais frères et sœurs. Il y en a un qui a pris un peu plus en charge. Mais ça induit justement ce partage. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand l'aîné prend la place du père, c'est au détriment de sa propre enfance. C'est pour ça qu'après, comme on le disait dans un autre témoignage, il peut devenir caractériel ou un peu dictateur.
Alors, nous sommes en ligne avec un autre voisin, Pierre, à Kinshasa. Bonjour Pierre.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Kérati.
On vous écoute, Pierre.
Ok, moi, en écoutant les sujets, c'est intéressant de parler un peu de mon histoire. Et par rapport à moi, j'ai une certaine... j'avais un petit frère et une petite soeur. Alors, je me donnais déjà, j'ai porté des casquettes. Mes parents ne m'avaient rien dit. Et j'avais un autre frère qui était de la famille. Donc, juste comme c'était la famille, je m'étais ça.
Alors, je suis désolée, Pierre, la ligne est un peu mauvaise. Je suis désolée. Je vais lire en fait ce que vous nous avez écrit votre témoignage aujourd'hui. Donc, effectivement, vous étiez le deuxième de votre famille, une famille de 40. Vous pensiez pendant longtemps que vous étiez l'aîné jusqu'à l'arrivée soudaine d'un grand frère qui a été un choc pour vous. Mais vous avez continué de vouloir porter la responsabilité de l'aîné qui pour vous était un avantage. Et en fait, vous êtes devenu concurrent avec votre frère aîné. Alors on en vient, Virginie Méglet, à cette idée de concurrence aussi pour endosser le rôle entre guillemets de chef de famille, chef de fratrie.
Eh oui, je pense que dans toute famille, il y a quand même de l'amour, c'est l'amour qui préside à la vie. Hein. Mais il y a cette réalité, c'est qu'en tant qu'enfant, et en tant qu'humain, nous sommes des êtres extrêmement fragiles. Donc le fait de vouloir garder ou avoir la première place, c'est un peu avoir la seule place. Donc quelqu'un d'autre arrive, et ben on est menacé. Alors parfois, les parents voudront étouffer tout ce qui est de l'ordre de la rivalité, de l'attention, alors qu'en même temps, elle est vraiment naturelle. Et là, excusez-moi sans son prénom, rappelez-moi de
son prénom, Pierre.
Pierre, voilà. Si Pierre, effectivement, a cru qu'il était le premier, c'est effectivement la crainte de perdre sa place, surtout qu'après, il y a de nombreux enfants qui sont venus. Hein. Et en fait, il se protégeait des autres et soudain, c'est de l'autre côté que quelqu'un est venu, un autre premier. Et c'est normal qu'il y ait cette concurrence, cette rivalité. Comment faire qu'elle ne soit pas douloureuse? Et comment admettre que de toute façon, c'est le plus difficile, dans une famille, on n'est pas le seul enfant. C'est surtout ça. Hein.
Alors nous allons joindre Fabrice Boudjahaba, historien, chercheur au CNRS et spécialiste de l'histoire de la famille, qui a publié le livre « Frères et sœurs du Moyen-Âge à nos jours ».
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour Fabrice Boudjahaba.
Bonjour.
Que nous apprend cette histoire des fratries depuis le Moyen-Âge? Quelles sont les grandes leçons à en tirer?
D'abord, en vous écoutant, je note qu'on parle beaucoup de l'aîné, effectivement. Mais ce que nous apprend l'histoire, c'est que l'aîné, évidemment, a eu un rôle important, mais pas toujours, en fait. C'est très variable. Il y a des sociétés où la place de l'aîné n'est pas si prédominante. Il y a évidemment toujours l'idée que l'aîné, c'est celui qui ouvre la voie, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas forcément celui qui va porter toute la famille, qui va être le soutien de toute la famille. Il y a des systèmes extrêmement variables. Et en fait, on a beaucoup l'idée du droit d'aînesse en tête, mais ce droit d'aînesse, si je pense à l'Europe, il s'applique essentiellement à la noblesse. Mais beaucoup de sociétés paysannes, en fait, ne distinguaient pas la position de l'aîné, du cadet, de celle du benjamin. Et ça, c'est quelque chose d'assez contraire à peut-être l'impression qu'on peut avoir, que l'aîné... est en charge, notamment les sociétés traditionnelles, de porter la continuité de la famille, la continuité de l'exploitation familiale quand c'est un monde d'agriculteurs, etc.
On parle quand même du droit d'aînesse, hein, qui a longtemps été inscrit dans l'histoire de la famille en France. En quoi ça consiste exactement, ce droit d'aînesse ?
Le droit d'aînesse, c'est le fait, et c'est une question centrale, c'est le fait que l'héritage familial passe principalement à l'aîné, et que les cadets ils n'ont pas grand-chose pour s'installer dans la vie. Alors, tout ça, ça s'explique par le fait qu'on est dans des sociétés paysannes et que l'exploitation, elle se tient parce qu'elle est conservée d'une génération à l'autre. Mais en fait, cette vision qu'on a, elle est assez fausse. Il y a beaucoup de... Tout le nord de la France n'était pas comme ça il y a deux siècles, avant la Révolution. Et on partageait les héritages de manière égale entre les aînés et les cadets. On ne faisait pas de vraie différence de ce point de vue-là. Ça existait dans la noblesse, mais ça n'existait pas partout. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a perdu... On s'imagine qu'au fond, les places assignées aînés, cadets, sont des choses héritées du passé, et qu'au fond, là, peut-être l'époque contemporaine... transforme un peu tout ça, parce que d'abord les fratries sont beaucoup moins nombreuses, parce que les parents cherchent à investir du point de vue éducatif dans tous leurs enfants, mais en fait c'est pas forcément une évolution linéaire depuis deux siècles qui ferait que on irait de grandes familles où l'aîné a un rôle très important à aujourd'hui des petites familles où tout ça serait un peu indifférent. C'est pas exactement ça qui se passe. Et puis il y a un moment qui est intéressant, c'est la Révolution française. Qu'est-ce qui se passe à la Révolution française ? À un moment donné, les révolutionnaires ont une idée assez étonnante. Ils pensent supprimer le testament, le droit pour les parents de faire un testament. Et donc, de favoriser l'aîné plutôt qu'un autre. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce qu'il y a des régions qui s'opposent à cette idée-là, parce qu'ils tiennent à ce que l'aîné ait une position plus importante. Et au fond, je crois que c'est ça, c'est un sujet que vous abordez depuis le début de l'émission, qui me paraît central, c'est celui en fait du fonctionnement de l'ensemble de la famille à travers la fratrie. Il y a évidemment les relations entre les frères et les sœurs, mais ce que disent les relations des frères et des sœurs, ils disent aussi beaucoup sur le fonctionnement de la famille en général.
Et sur les relations avec les parents notamment.
Et la relation avec les parents, je m'explique. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, quand un parent, quand un système familial dit c'est l'aîné qui doit avoir l'héritage, c'est pas qu'un cadeau pour l'aîné. C'est aussi, ça veut dire qu'il doit supporter la famille, il doit notamment aider ses parents. Et donc, c'est une position qui paraît avantageuse, mais qui se traduit aussi concrètement par une série de devoirs qui peuvent être très lourds. Et en fait...
quand les parents vieillissent, notamment.
Quand les parents vieillissent, l'aîné doit prendre en charge les parents. Donc, on a des systèmes familiaux, effectivement, où celui qui hérite, c'est aussi celui qui garde à la maison ses parents.
C'est une nouvelle responsabilité aussi.
Voilà, c'est une autre responsabilité. Et vous avez d'autres systèmes où l'aîné n'a pas l'avantage, n'a pas plus d'héritage. Mais dans ce cas-là, personne ne prend les parents. Donc ce qui est intéressant, c'est que à travers la relation entre les frères et sœurs, ça dit aussi beaucoup de la manière dont une société envisage la prise en charge des vieux, en fait, et des parents très âgés.
Cela raconte beaucoup, effectivement, nos sociétés.
Voilà. Et donc, alors aujourd'hui, nous, on est dans une société, en Europe en tout cas, où avec les systèmes de prise en charge collective, les systèmes de retraite, la question s'est un peu... a perdu de son l'enjeu. L'enjeu est moins important dans cette question-là. Mais évidemment, dans des sociétés où les systèmes de retraite ne sont pas encore mis en place, la question du traitement de l'aîné, du cadet, etc., reste toujours très importante, parce que de là dépend aussi souvent la question du traitement des parents à l'âge très avancé. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles formes aussi de solidarité qui se créent autour entre frères et sœurs. Alors là, je pense par exemple aux sociétés qui vieillissent. Aujourd'hui, en Europe occidentale, les parents ont fait peu d'enfants. Donc les fratries sont assez réduites finalement. Donc il y a moins de personnes sur qui compter pour ces vieux jours, et il y a des systèmes collectifs. Mais il y a aussi une question qui se pose, c'est celle des vieux frères et sœurs aujourd'hui. Il y a une enquête canadienne aujourd'hui qui travaille là-dessus, de savoir comment sont pris en charge les baby-boomers, les vieux baby-boomers. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que des frères ou des sœurs, pas forcément les aînés, pas forcément les cadets, prennent en charge leurs vieux frères ou leurs vieilles sœurs qui a plus de difficultés, qui a plus de maladies à un âge avancé qu'eux-mêmes, à la place de ce que pouvaient faire les enfants, puisqu'il y a moins d'enfants. Donc voilà une nouvelle fonction aussi de la fratrie qui apparaît aujourd'hui. Comme elles ont diminué de taille, il y a une part de la responsabilité qui se reporte sur les frères et sœurs de la génération au-dessus, en fait.
Merci, merci beaucoup Fabrice Boudjahaba. Je rappelle que vous avez publié le livre « Frères et sœurs du Moyen-Âge à nos jours ».
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Et nous sommes en ligne avec un autre voisin, Rigobert Adjong, au Cameroun. Bonjour Rigobert.
Bonjour, bonjour les voisins et les voisines.
Bonjour, vous avez 28 ans, on vous écoute Rigobert.
D'accord, le sujet me paraît vraiment intéressant parce que moi j'ai vécu dans une grande famille. Une famille où je n'étais pas l'aîné, je suis le 9e enfant de la famille. Et comme témoignage, je veux apporter l'émouvante place que j'ai eu à trouver parmi mes frères et sœurs.
Mmh. Et vous êtes en lien notamment avec votre sœur aînée. Hein. Il y a un vrai lien particulier avec oui. elle.
Oui, la grande sœur actuellement à Léré, qui a pu se dire. Et plus loin ici, je peux pousser, je vais venir là pour dire que ce nom Rigobert, ce prénom Rigobert que je porte, c'est elle qui me l'a donné.
Ah oui, celle qui a choisi votre prénom.
Oui, c'est elle qui me l'a donné.
Et là, actuellement, vous vivez loin de votre famille hein, pour vos études et votre sœur vous appelle régulièrement. Vous restez en contact.
Régulièrement, oui, régulièrement. Mm. On ne peut pas au moins passer une semaine sans qu'elle m'appelle. Et là, ça garde toujours cette relation qu'il y avait d'abord entre nous et qui continue. Et pas seulement avec elle. J'ai aussi des grands frères qui sont toujours présents quand j'ai besoin d'eux. Et à mon niveau, je juge très étroite cette relation auquel j'exploite aussi leur attitude à mon égard pour aussi gérer mes petits frères, avec mes petits frères.
Qui sont comme vos amis, hein, vous nous l'écrivez sur Facebook. Merci, merci beaucoup Rigobert pour ce témoignage, donc sur cette relation, cette jolie relation que vous avez avec votre sœur et avec vos frères. Virginie Méglet, houleuse, complice, envieuse, fusionnelle, en bien ou en mal, on a toujours beaucoup à dire des relations avec ses frères et ses sœurs. Et ces relations, en fait, jalonnent notre enfance, mais aussi notre vie adulte. Alors peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels conseils on peut donner là aux parents qui nous écoutent pour voilà, entretenir des relations au sein de la fratrie qui sont saines.
Ce qu'on pourrait dire, c'est que d'une part, autant l'amour prime et l'amour est important, mais l'amour n'est pas un devoir. Et que donc, quand des parents exigent que les frères et sœurs s'aiment, c'est une façon de leur interdire leur vrai sentiment. Mais le vrai sentiment pas définitif, c'est justement ce sentiment de rivalité, d'inquiétude, de fragilité. Donc j'aurais envie de dire, si on a plusieurs enfants, essayer que les enfants restent tous des enfants. Donc de ne pas demander, même si c'est dans l'histoire, de ne pas demander à l'aîné de prendre la place du parent et aussi à faire attention à ce qu'il ne le fasse pas lui-même. Hein. Et d'essayer de privilégier la place. D'un côté, il y a les parents, de l'autre côté, il y a les enfants. Donc là, dans ce dernier témoignage, parce que moi, ce que j'entends, c'est que dans ces très grandes familles, reste bien cette ambiguïté, à la fois l'inquiétude et la fragilité due à la place, et en même temps l'amour qu'il y a. Donc, enfin, bon, je me répète un petit peu, mais c'est de dire, voilà, s'il y a des disputes, c'est normal, s'il y a de la rivalité, c'est normal, et c'est ce qui permettra que dans un second temps, il y ait vraiment de l'amour.
Et qui permet aussi de se construire. Merci, voilà. Merci beaucoup Virginie Méglet d'être venue dans notre émission. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Nicolas Benita à la réalisation, Sigrid Azerwal en coulisses, Yann Leni pour vous répondre les voisins. Merci aussi à Raphaël Lazizi et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines pour vos appels nombreux, vos messages. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu tous vous passer à l'antenne. Et demain, 7 milliards de voisins, téléphonie, technologie, économie, l'innovation est partout. Mais comment rester maître de sa vie et faire de cette agitation un atout? On en parle avec notre invité, l'écrivain, membre de l'Académie française, Éric Orsenna. À demain les voisins!